chacune, à chacun, bonjour. Nous sommes heureux d'être dans la présence de Dieu. Sans plus tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Psaumes, au chapitre 113, verset 1er. Et ce matin, de la part du Seigneur, j'aimerais vous encourager et parler peut-être plus particulièrement pour quelqu'un qui traverse une épreuve et que Dieu veut secourir, et à qui il dit « Je t'attends tout simplement au pied de mon trône de grâce, afin que tu obtiennes secours, afin que tu relèves la tête et que tu sois encouragé. » Psaume, chapitre 113, verset 1er. « Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez, louez le nom de l'Éternel. » Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Pouvons-nous lire tous ensemble, s'il vous plaît, le verset 7 et 8. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Amen. On pourrait bien sûr terminer. Il donne une maison à celle qui était stérile, il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. Si je vous ai demandé de le lire avec moi, du moins ce passage particulier qui pourrait quelque part être donné comme titre à ce message, « De la poussière, il retire le pauvre pour le faire asseoir avec les grands. » Et si je vous ai demandé cela, c'est parce que c'est un cantique. Nous n'avons pas les partitions, mais nous avons les paroles. Et comme nous avons chanté ensemble, nous pouvons aussi le proclamer ensemble. Une parole de bénédiction pour quelqu'un ce matin. Oui, le Seigneur voudrait te retirer de la poussière et te faire asseoir avec les grands. Qu'est-ce que cela signifie? D'où ce psaume est tiré? Parce que c'est vrai, nous pouvons lire les psaumes. Est-ce que vous aimez les psaumes? Moi aussi, j'aime les psaumes. Nous aimons nous endormir sur un psaume. Nous aimons certainement nous lever sur un psaume. Nous aimons, de temps en temps, dans la journée, chanter un psaume ou des paroles de psaume qui nous reviennent parce qu'elles sont des louanges. Psaume qui signifie les cantiques de louanges, les louanges pour Dieu. Mais d'où ce psaume a-t-il tiré? Qui a pu prononcer une telle parole? Que de la poussière, il retire le pauvre pour le faire asseoir avec les grands. 1 Samuel chapitre 2, s'il vous plaît, verset 8. Verset 4, il est dit « L'arc des puissants est brisé, les faibles ont la force pour ceinture, ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre, il fait descendre au séjour des morts, il en fait remonter. » L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. Verset 8, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. Amen. C'était le cantique d'Anne, une prière d'Anne. Et celui qui a composé le psaume 113 est bien sûr inspiré. Et il y a un lien logique, il y a bien sûr, une cohérence dans la parole de Dieu. Rien n'est dit au hasard, mais l'Esprit de Dieu l'a conduit à prononcer ses paroles. Et si Anne est en train de prononcer ses paroles, c'est parce qu'elle le vit. Elle vient de le vivre. Anne qui était passée par une épreuve terrible. Et nous allons le lire à partir du chapitre 1er et du verset 1er pour que nous soyons tous au clair avec le contexte. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Eliu, fils de Tohu, fils de Tsuph Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Eli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Elle reprit la parole et dit, Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans la maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, « Je l'ai demandé à l'Éternel. » Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point, et elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Elkana, son mari, lui dit, « Fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré, veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. » Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle eût sevré. Amen. Et la suite nous montre que Samuel va justement être consacré à Dieu. Et justement, quel homme va-t-il être utilisé entre les mains de Dieu pour son peuple, que le Seigneur soit béni. Et ce matin, le Seigneur voudrait encourager quelqu'un qui passe par l'épreuve, comme Anne qui passait par l'épreuve. Le Seigneur voudrait que tu relèves la tête, il voudrait parler à ton cœur, et comme Anne, que tu restes tout simplement un peu plus de temps dans sa présence, là où nous nous retrouvons tout simplement la guérison, la restauration, la consolation pour nos cœurs, et que comme Anne, nous pouvons enfin retrouver la santé, la vigueur, la guérison, l'état qui nous permettra d'enfanter, de donner vie spirituellement, de pouvoir porter autour de nous la vie. Pour Anne, tout aurait pu être différent. Nous voyons bien dans tout le début du chapitre qui nous est donné, bien sûr, le début de la généalogie de Elkana, son mari. Donc, dans quel contexte Anne vivait? Un contexte qui nous montre qu'elle aurait pu tellement être heureuse. Rama signifie hauteur. Éphraïm, doublement fécond. Éphratien, fertilité. C'était pas du tout la vie de Anne. Bien sûr, ce sont des significations, mais dans l'Ancien Testament, la parole nous donne quand même une importance particulière sur la signification des noms, mais surtout le fait qu'elle était que Elkana, le mari, était de la tribu de Benjamin. Il connaissait Dieu, il connaissait les lois de Dieu pour ce peuple, pour le peuple juif. Il suivait l'Éternel, et nous voyons bien d'ailleurs dans tout le déroulement de la vie d'Anne qu'elle ne faisait pas que parler de Dieu, que t'entendre parler de Dieu, que de faire des sacrifices, même en montant à la maison de l'Éternel, mais elle connaissait Dieu. Elle connaissait Dieu parce que dans son épreuve, elle a su se confier en lui. Elle connaissait Dieu parce que dans son épreuve, elle a su verser des larmes à ses pieds et ensuite certainement se laisser consoler. Anne connaissait Dieu. Bien sûr, il y a là toutes les généalogies et j'aimerais dire à quelqu'un que ce n'est pas nos descendants qui font notre salut. Ce n'est pas notre famille, notre entourage, ce n'est pas le fait d'être né dans une famille chrétienne, d'être entouré de chrétiens, aujourd'hui, hein, dans notre monde contemporain, dans notre société du 21e siècle, qui fait de nous des rachetés, qui fait de nous des sauvés. Mais c'est plutôt la relation que nous avons avec Dieu. C'est plutôt le fait de nous être repentis, de nous être convertis et de lui appartenir. C'est le fait plutôt d'avoir une communion avec lui. Et Anne, dans son contexte, dans son époque, elle en tout cas avait une communion avec Dieu. Elle avait la foi, mais aussi les œuvres, je dirais, pour l'époque, puisqu'il nous est dit qu'elle montait au temple, mais aussi elle avait une communion avec Dieu. Un cœur pour Dieu. Elle savait lui parler là dans sa détresse, sans rester dans ses problèmes, dans son épreuve, se morfondre et restée repliée sur elle-même, mais elle a su déverser ses larmes et son amertume aux pieds du Seigneur. J'aimerais vous rappeler un texte des Éphésiens qui nous dit bien que nous étions morts dans nos péchés. Mais Paul dit aux Éphésiens, d'ailleurs c'est une pensée qui traverse toute la lettre qu'il écrit, « Nous étions morts, mais il nous a rendus à la vie. Il nous a ressuscités avec lui. Il nous a rendus vivants. » Et il nous a ressuscités ensemble pour nous faire asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Assis avec les grands, c'est d'abord être assis parmi les rachetés. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais vous êtes assis à côté d'un enfant de Dieu, vous êtes assis à côté d'un frère, d'une sœur en Christ. Peut-être êtes-vous assis à côté de quelqu'un qui a une communion avec Dieu, vous êtes assis avec les grands. Non pas parce que nous sommes grands selon le monde, mais parce que nous avons été rachetés en Jésus-Christ, parce que nous avons été ressuscités, ramenés vivants, nous qui étions morts dans nos péchés. Anne, elle avait une communion avec Dieu. Et vous savez, c'est important de connaître nos racines. Quelles sont nos racines spirituelles? Quelles sont vos racines spirituelles? Est-ce que c'est parce que le grand-père était chrétien? Est-ce que c'est parce que l'entourage est chrétien? Est-ce que vous êtes là dans ce lieu parce que un ami est chrétien et vous a invité? Alors le Seigneur voudrait vous sauver. Le Seigneur voudrait parler à votre cœur, comme ces cantiques qui ont été chantés, qui ont été affichés aussi. Le Seigneur voudrait vous dire qu'il est venu sur la terre, qu'il a donné sa vie, qu'il a donné son corps, qu'il a été crucifié, que son sang a été versé pour le rachat de vos vies, pour que vous soyez assis avec les grands, pour que vous soyez rachetés, pour que vous connaissiez ce Dieu qui est bon, qui veut vous relever, pour que vous connaissiez ce Dieu qui vous donne une espérance dans les lieux célestes, connaître ses racines spirituelles. Un proverbe africain dit, si tu vois la cime d'un arbre, mais que tu ne vois pas les branches, si tu vois la cime, c'est qu'il y a quand même les branches. Et c'est grâce aux branches que tu vois la cime. Et si tu vois les branches d'un arbre, c'est grâce au tronc que tu vois les branches, même si tu ne vois pas le tronc. Et si tu vois le tronc d'un arbre, c'est grâce aux racines que tu peux voir le tronc. En clair, si tu vois la cime d'un arbre, c'est grâce à ses racines, même si tu ne les verras jamais. Et j'aimerais vous dire que ce qui fait notre joie et la grâce que nous sommes assis dans les lieux célestes, c'est nos racines spirituelles. Où est-ce que nous avons posé le fondement de nos vies? En Jésus-Christ, le rachat de nos vies, une repentance véritable, une conversion, celui qui a été crucifié, qui est ressuscité et qui est glorifié. Ou est-ce juste par tradition, par religiosité? Est-ce juste par héritage ou descendance? Non, le Seigneur voudrait interpeller quelqu'un ce matin. Quelles sont tes racines spirituelles ? Paul parle aux Éphésiens, il les encourage, il leur rappelle. Vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. Êtes-vous assis avec Christ dans les lieux célestes ? Êtes-vous des enfants rachetés ? Le psaume 113, ce psaume que nous avons lu au début, d'où est tirée cette parole, de la poussière, il relève l'indigent, il relève le pauvre et le fait asseoir avec les grands. C'est un psaume qui se chantait et qui s'entonnait juste avant la Pâque. Et aujourd'hui, nous ne célébrons pas la Pâque, nous célébrons le repas du Seigneur. À chaque fois que nous nous voyons, nous l'avons entendu au travers d'ailleurs de ce qui a été apporté, le pain et le vin. Le pain qui symbolise le corps du Seigneur qui a été rompu, le vin qui représente le sang de Jésus qui a coulé, le pain et le vin, la Sainte Cène. Et juste avant de prendre, pour prendre le pain et le vin, pour être en communion réelle, ensemble et avec Dieu, il faut d'abord avoir réalisé que de la poussière, il retire le pauvre et il le fait ensuite asseoir avec les grands. Les Juifs qui chantaient ce cantique qu'il entonnait, ils le prenaient juste avant la Pâque, comme pour se souvenir qu'ils étaient dans la poussière, mais Dieu les a relevés, il les a fait asseoir avec les grands. Et il y a peut-être quelqu'un qui est dans l'épreuve, qui a la tête baissée, qui n'arrive pas à relever la tête, qui a le visage triste et dans le chagrin, qui comme Anne ne mange plus, ne veut plus parler. D'ailleurs, quand elle s'adresse au sacrificateur Élie, elle dit « c'est l'excès de ma souffrance qui m'a fait parler jusqu'à présent ». Elle n'avait plus envie de parler, elle n'avait plus envie de manger, elle était vraiment dans une épreuve difficile. Mais le Seigneur l'a relevé. Et j'aimerais te dire que si tu es dans une épreuve difficile, lève les yeux vers le Seigneur. Laisse le Saint-Esprit te rappeler que tu as été rendu vivant, ressuscité avec Christ dans les lieux célestes. Laisse le Saint-Esprit te rappeler que spirituellement, bien sûr, c'est une image. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est une réalité, mais en même temps c'est une image parce que nous sommes encore sur la terre. Les pieds bien sur la terre, la tête dans le ciel. Nous sommes déjà avec Christ, assis dans les lieux célestes. Ce cantique était entonné juste avant de célébrer la Pâque. Et quelqu'un a peut-être besoin tout simplement de découvrir ce Dieu d'amour qui veut relever le pauvre, qui veut relever le misérable, qui veut relever le pécheur, le sauver, lui donner la vie, lui pardonner ses péchés. Découvrez aujourd'hui que de la poussière, il retire le pauvre pour le faire asseoir avec les grands. De la poussière, là où Dieu, justement nous a formés. L'amour de Dieu, c'est déjà la création. D'ailleurs, nous l'avons chanté, que j'aime ce cantique. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. N'est-ce pas vrai que lorsque nos yeux s'ouvrent, nous regardons la nature différemment. Nous regardons les choses autour de nous différemment. C'est comme si nous voyions des choses que nous ne voyions jamais avant. Toutes choses sont différentes. Nos yeux s'ouvrent sur la réalité de l'amour de Dieu qui est déjà manifesté dans la création. Dieu a créé l'univers. Par sa parole, il a créé l'univers. Par sa parole, il a créé les arbres, les végétations, la nature, les êtres vivants, les animaux et les luminaires par sa parole. Mais pour créer l'homme, il a pris la poussière, il a façonné, il a formé. Il y avait là tout l'amour de Dieu dans le projet de la création. Pour créer l'homme, il y a mis son amour, il a créé à son image propre. Dieu t'aime, Dieu nous aime. Et Paul dira aux Éphésiens, c'est par grâce que nous sommes sauvés, non pas par nos mérites, mais par sa grâce. Et quelqu'un a besoin de réaliser à nouveau l'immensité de l'amour de Dieu. L'immensité de l'amour de Dieu qui a envoyé Jésus-Christ afin que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle en Jésus-Christ. L'immensité de l'amour de Dieu manifesté déjà dans la création. Alors que Dieu, c'est vrai, a formé l'homme de la poussière, il ne s'est pas arrêté là, mais il a insufflé souffle de vie et il devint un être vivant. Et aujourd'hui, alors que l'homme était mort dans son péché, il peut connaître la vie véritable, recevoir la vie éternelle, être rendu à la vie, ressuscité, s'il reçoit ce souffle de l'Esprit. Quand Dieu nous convainc de son Esprit, par son Esprit, nous convainc de péché, de justice et de jugement, quand nous recevons la conviction du Saint-Esprit, quand nous recevons le Saint-Esprit de Dieu qui nous éclaire et nous ouvre les yeux sur la réalité de la croix, la réalité de la résurrection, sur la réalité de la gloire de Dieu, sur son retour prochain et l'espérance qui veut nous donner un souffle de vie. Quelqu'un est peut-être encore comme inerte. Quelqu'un est peut-être mort dans son péché ce matin. Quelqu'un ne s'est pas repenti. Quelqu'un n'a pas reçu cette révélation, non pas mystique, mais spirituelle. Oh oui, nous prions afin que l'Esprit de Dieu souffle et que vous receviez cette conviction du Saint-Esprit, afin que de la poussière, il retire ce matin le pécheur pour le faire asseoir avec les rachetés. Anne est dans la souffrance, Anne a une rude épreuve. Nous avons lu le texte. La version Semeur, il y a différentes versions, bien sûr. Elles sont complémentaires, nous aident à bien comprendre. Et certainement, vous allez voir rapidement, trois versions sur un verset vont vous permettre de vous identifier, il me semble. La version Semeur dit que sa rivale ne cessait de la vexer. Avez-vous déjà été vexé? Non? Si. La parole de vie dit, elle n'arrêtait pas de la blesser par ses paroles et de se moquer d'elle. Une autre version dit, sa rivale ne cessait de la contrarier. Quand on a des contrariétés, quand on est vexé, quand on se sent victime et dans l'injustice. Anne, qui n'avait pas d'enfant. Pénina en avait et elle se moquait d'elle. Pénina en avait et elle a blessé. Pénina en avait et elle a vexé. Et sans cesse, et quand est-ce? C'était uniquement quand elle montait à la maison de l'Éternel. Vous vous rendez compte comment l'ennemi essaie de nous décourager? C'était quand elle montait à la maison de l'Éternel que sa rivale essayait de la décourager. Anne était souffrante. Anne ne mangeait plus. Anne avait bien du mal à parler. Il y a peut-être quelqu'un qui est là et qui vit une situation difficile. Il y a peut-être quelqu'un qui vit une situation injuste, qui se sent victime, qui est dans l'oppression et qui n'arrive plus à relever la tête et qui dit « j'ai l'impression d'être comme la tête dans la poussière ». Le Seigneur a une parole d'espérance. Je me souviens, nous avions fait un camp d'adolescents et je me souviens de cette jeune fille qui ne mangeait plus. Ça avait pris du temps, mais alors qu'elle avait réussi à se confier à un moment donné à une personne, elle ne mangeait pas parce qu'elle souffrait. Elle ne mangeait pas parce qu'elle avait des blessures intérieures qui n'étaient pas guéries. Elle ne mangeait pas parce qu'elle était souffrante et elle avait besoin tout simplement de consolation. Elle avait besoin d'être relevée, elle avait besoin d'être guérie. Combien aujourd'hui dans notre société, combien de jeunes filles ne mangent plus? Combien de jeunes filles ne mangent plus? Et je pense à une autre situation où une jeune fille nous disait « mais moi justement je me réfugie dans la nourriture, je n'arrive pas à m'arrêter ». Et quand nous avions discuté un petit peu plus profondément, c'était la souffrance, c'était des blessures intérieures. Elle essayait de se replier dans cela et c'était l'excès de sa douleur qui la faisait agir de la sorte. Combien aujourd'hui dans notre société de jeunes filles, mais aussi certainement de jeunes garçons, ne mangent plus à cause de blessures intérieures? Combien justement se réfugient dans la nourriture, dans l'excès, à cause d'une blessure intérieure? J'aimerais ce matin rappeler que Dieu est le Dieu de toute guérison, qu'il est le Dieu qui guérit corps, mais aussi âme et esprit. Il est celui qui opère des guérisons intérieures, des guérisons puissantes. Comment pourrions-nous, comme Anne, être féconds? Anne, c'était bien sûr celle qui va enfanter Samuel, mais spirituellement, nous sommes appelés à être des témoins. Spirituellement, nous sommes appelés à enfanter. Qui enfante? Ce sont les brebis, pardon, que le berger garde. Et Jésus nous donne cette image, il est le bon berger qui prend soin des brebis. Les brebis enfantent, le Seigneur revient, nous sommes dans la fin des temps et nous sommes amenés à réaliser qu'il est à la porte. Il nous faut enfanter, que des âmes soient sauvées, parler de l'Évangile, dire à quelqu'un que Jésus l'aime, mais sous l'onction du Saint-Esprit, avoir un témoignage qui fait que la lumière est dans notre cœur, marcher comme des enfants de lumière, comme dira Paul justement aux Éphésiens, alors les gens verront. Les gens se donneront à Dieu, se tourneront vers celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Mais comment pourrions-nous enfanter si nous-mêmes nous sommes malades? La brebis qui enfante, c'est celle qui est en bonne santé. Comment pourrions-nous donner s'il y a des blessures intérieures? Et Dieu voudrait d'abord guérir nos cœurs. Il voudrait d'abord agir. Anne était dans la souffrance. Anne aurait pu être doublement contrariée parce que son propre mari lui dit « Mais pourquoi pleures-tu? Pourquoi gémis-tu ? » Il semble ne pas trop la comprendre. Et en plus de cela, sa rivale Pénina ne fait que la contrarier, la blesser, la vexer, l'insulter. Elle aurait pu dire « Je ne monterai plus à la maison de l'Éternel. » Car c'est justement quand je monte à la maison de l'Éternel que ma rivale m'accuse et m'insulte. Comment et combien de fois l'ennemi essaie de nous empêcher de venir dans le rassemblement des croyants. Combien de fois l'ennemi essaie de nous accuser, nous faire du mal et de nous mettre des obstacles pour que nous ne venions plus dans la communion fraternelle. J'irai plus à l'église. J'ai plus envie. J'ai été blessé par une parole. Je veux plus aller. Et nous rendons Dieu responsable sans nous en rendre compte. Combien de fois l'ennemi a essayé et on est peut-être tombé dans le piège, peut-être quelqu'un est tombé dans le piège, peut-être quelqu'un s'est dit ces derniers jours, je n'irai plus. Ou songe à arrêter, songe à prendre du recul. Alors que le Seigneur voudrait te guérir, alors que le Seigneur voudrait t'encourager, alors que le Seigneur voudrait te dire non, viens, persévère, il y a une abondante bénédiction pour toi. Il y a un combat spirituel, ne l'oublions pas. Et la parole de Dieu nous dit que notre ennemi c'est Satan, ce ne sont pas les autres. C'est l'ennemi de notre âme. Et il va essayer de nous décourager. Et comment fait-il? Je parlais des problèmes, je vais citer le nom, d'anorexie ou de boulimie tout à l'heure, qui sont réels, qui sont là. L'ennemi va aussi essayer de toucher à l'estime de soi. Regardez bien, Anne est là. Sa rivale est en train de la mortifier. Que fait-elle? Elle est en train de lui faire du mal parce qu'elle n'a pas d'enfant. Voilà qui tu es. Il touche à l'estime de soi. Tu n'as pas de valeur, tu n'as pas d'enfant. La question centrale à l'époque pour une femme dans cette culture-là, c'était justement la question des enfants. C'était la question de la famille. La question centrale, c'était de pouvoir engendrer et donner une descendance à son mari. Alors imaginez, ce qui avait de plus important pour elle semblait justement s'effondrer. S'effondrer. Qui tu es? Tu n'as pas de valeur. L'accusateur de notre âme, l'ennemi Satan, voilà ce qu'il dira. Tu n'y arriveras jamais, tu ne seras pas guéri, tu ne seras pas guéri de ton mal. Tu n'enfanteras jamais, tu ne pourras rien faire. Il va essayer de nous accuser et de nous décourager. Voilà comment se prend-il. Et nous voyons que pour être relevé, pour avoir la guérison du Seigneur par son esprit, parce que depuis nous sommes dans une autre époque bien sûr, Jésus-Christ est venu, il a donné sa vie, il a payé le prix, il est le roi des rois ressuscité et il a tout pouvoir, le pouvoir de nous guérir intérieurement, le pouvoir de restaurer, le pouvoir de consoler et le pouvoir de nous rendre féconds. Le pouvoir par son esprit de nous transformer. Mais il faut s'appuyer sur lui. Voyez donc, Anne qui souffre. Peut-être aurait-elle pu dire, je n'ai que mon mari pour appui. Alors je vais essayer de m'appuyer sur mon mari. Mais voyez donc comment Elkana est maladroit. Et oui, parfois, nous pouvons être tellement maladroits. Quand nous essayons de régler humainement les choses, par exemple, il essaie, pour régler les choses, il donne une double portion à Anne. Il ne fait qu'augmenter la jalousie et la persécution qu'elle subit. Il donne une double. Alors que le Seigneur, si on s'appuie sur lui, rappelez-vous ce qu'il a dit, il ne fait point de favoritisme. Le Seigneur avait beaucoup mieux. Je crois que quand on essaie humainement de régler nos problèmes, on peut bien des fois faire des erreurs, bien des fois faire des bêtises. Quand on essaie de combler un besoin spirituel, un manque spirituel, par un moyen humain. Peut-être quelqu'un a besoin d'une guérison intérieure et il cherche son refuge, son réconfort dans un moyen humain. Je parlais de la nourriture, c'est peut-être courir après l'argent, après les richesses, après un divertissement, après une satisfaction. Après l'imaginaire dans des lectures et des lectures, et le Seigneur voudrait simplement guérir notre cœur, il est là le problème. Ce n'était pas de nourriture supplémentaire que Anne avait besoin, elle qui recevait de son mari une double portion, mais c'était de consolation. C'était de la présence de Dieu. C'était de guérison. C'était d'encouragement. Elkana pouvait donner du pain supplémentaire à Anne, mais seul Dieu pouvait lui donner du pain spirituel. Elkana pouvait multiplier la nourriture, mais seul Dieu pouvait lui donner un enfant. Elkana pouvait donner beaucoup de choses, mais seul Dieu pouvait lui donner la vie. Parce que l'enfant, c'est aussi la vie. L'homme est bien parfois maladroit, c'est vrai. Et on peut être chrétien et parfois ne pas discerner l'épreuve de l'un ou de l'autre, parce qu'on voit dans Elkana qu'il n'a pas une mauvaise intention, et il lui dit même « Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Et certainement Anne a dû se dire « Mais il ne me comprend pas. Il ne comprend pas mon cœur, il ne comprend pas ma souffrance, il ne comprend pas mon épreuve. » Et voyez, on peut être chrétien, on peut connaître Dieu et ne pas discerner l'épreuve de l'autre. Mais j'aimerais vous dire, cessez de placer votre confiance en l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Placez votre confiance en Dieu. En Afrique, un jour, un médecin est allé dans des peuples, des territoires retirés, et c'était il y a bien longtemps, et il voulait rentrer en contact avec des peuplades de brousse. Et pour ce faire, il avait sa mallette, il avait tout ce dont il avait besoin, c'était un médecin. Pour ce faire, quand il est arrivé, il a vu plein de petits-enfants qui venaient du village et qui le regardaient, qui restaient un peu à distance. Alors il a été étonné, il les a regardés, ils se sont observés quelques instants et tout à coup, et il ne savait pas quoi faire pour entrer en contact, parce que plus il avançait, plus les enfants reculaient. Alors il s'est mis à pousser un grand cri. Les enfants ont eu peur, ils ont reculé. Il a rigolé, ils ont ri. Et tous ensemble, ils sont rentrés en contact comme ça. Et il est allé au village, il n'y a pas eu de problème, etc. Un jour, alors il s'est dit, je vais faire la même technique partout, mais ça ne marchait pas partout. Parce qu'un jour, il est arrivé dans un autre bourg, et que se passe-t-il? Il fait la même chose, il se met à pousser un grand cri, il y avait quelques enfants, tous partent, tous sauf un. Un qui se dresse droit devant lui, et qui le regarde comme ça. Alors il est étonné à tel point que c'est lui qui a eu peur. Il a reculé, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé un petit peu, il y avait quelques arbres, et derrière l'arbre, qu'a-t-il vu? Un homme d'un certain âge, le père de l'enfant. Et de là est né un proverbe, si tu essaies d'effrayer un enfant dans la brousse, mais que tu vois qu'il ne s'enfuit pas, c'est que tu n'as pas vu son père qui est caché derrière l'arbre. L'enfant en lui-même, il aurait eu peur, il n'avait aucune force, mais sa force, elle résidait dans son père. Sa force, elle résidait dans le fait qu'il pouvait s'appuyer sur son père. Et j'aimerais vous dire, notre force, notre courage, le fait de relever la tête, c'est le fait que nous pouvons nous appuyer sur Dieu. Et quand nous essayons de nous appuyer sur les autres, on les écrase et on les enfonce dans le sable. Mais quand on s'appuie sur le Seigneur, alors la vie revient, le Saint-Esprit nous touche, le Saint-Esprit nous parle, tout est différent, et Anne là va trouver la vie, de la poussière à la gloire, de la poussière Dieu la retire, il la fait asseoir avec les grands, elle compose ce cantique parce qu'elle le vit, elle compose ce cantique non pas parce qu'elle parle de Dieu, mais parce qu'elle connaît Dieu comme son appui, elle connaît Dieu comme celui qui l'encourage dans l'épreuve qu'elle vivait, elle n'a rien dit à Pénina. Elle n'a rien dit à Elkana, mais elle dit tout à Dieu. Et elle verse d'abondantes larmes. Combien de fois nous avons dit à quelqu'un des choses qu'il ne fallait pas dire? Je le dis pour moi-même, à ma grande honte. Et pardon Seigneur, combien de fois nous avons prononcé des paroles à quelqu'un que nous n'aurions pas dû prononcer. Mais c'était devant le Seigneur qu'il fallait le dire. Et là, qu'est-ce qui se passe? Processus de guérison. Le Seigneur reçoit ses larmes. Le Seigneur ne lui dit pas « Ah, Anne, tu pleures, mais pourtant tu devrais prendre courage. » Non, il reçoit ses larmes. Il reçoit même son amertume d'abord. Et elle avait raison de le déverser plutôt que de le garder. Parce que quand on regarde l'histoire de Abel et Caïn, l'amertume, ça peut conduire à un moment donné à la haine et à tuer notre frère. Mais elle reste là, longtemps en prière. Longtemps. Elle ne demande pas d'être guérie. Elle ne demande pas d'être bénie. Mais elle ne fait pas non plus le vœu forcément de recevoir, mais elle fait surtout le vœu de donner. Parce qu'elle dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai. Donc, elle est prête déjà à tout donner et à dire, même si j'ai un fils, il sera pour toi. Il ne sera pas pour moi. Et vous savez, ce qui l'a guérie, c'était la présence de Dieu. Ce n'était pas un homme ou un autre. On a parlé d'Elkana, on pourrait parler d'Élie. Élie était quand même le sacrificateur. Et pourtant, est-ce qu'à ce moment-là, il a eu vraiment les yeux ouverts? Il a cru qu'elle était ivre. Eh oui, tout homme peut se tromper, mais Dieu ne se trompe pas. Il était assis là devant les poteaux, mais elle, quelque part, reclue dans la poussière, dans sa souffrance, en pleurant, elle était déjà assise avec les grands, parce qu'elle était déjà en train d'être relevée par le Seigneur. Peut-être tu crois que tu es seul dans ton épreuve. Un jour, un homme disait qu'il a fait un rêve. Il était dans une épreuve terrible. Et dans ce rêve, il a vu quatre pas, quatre traces de pas sur le sable. Et au fur et à mesure que le chemin avançait sur le sable, il ne voyait plus que deux traces de pas. Et il a crié à Dieu, « Seigneur, je ne comprends pas. Je croyais que tu ne m'abandonnerais pas. Mais je ne vois plus que deux traces de pas. » Le Seigneur lui a dit, « Mais justement, je te porte sur mes épaules. Ce sont les miennes. » Bien sûr, c'est une image qui nous rappelle, qui a été mise d'ailleurs sur une carte postale. Je ne sais pas s'il y en a ici, mais j'ai trouvé cette image très belle qui nous rappelle, oui, que dans l'épreuve, Dieu veut nous porter. Dieu n'est pas là pour nous abandonner, pour nous accabler. Mon frère, ma sœur, reprend courage. Dieu a entendu la voix de Anne, mais elle est restée longtemps dans la prière. Ah, le temps. On court après le temps, on n'arrive pas à l'attraper, il va trop vite, on est pressé. Il court devant, impossible de le rattraper, impossible de le prendre, qu'est-ce qu'il faut faire? Seigneur, aide-nous à replacer les priorités. Et pour être guéri, il faut repasser d'abord du temps devant le Seigneur. Parce que le fait d'être longtemps en prière, c'est là que Dieu peut prendre le temps aussi de nous guérir, peut prendre le temps de nous parler, le temps de nous restaurer. Lui-même, il a ce temps parce que nous lui donnons. Le psaume 102, verset 17 dit « Il est attentif à la prière du misérable. » Et Anne, lorsqu'elle va enfanter Samuel, elle va l'appeler « Dieu a exaucé Samuel, parce que l'Éternel m'a exaucé. » Dieu veut nous exaucer. Quand nos prières sont conformes à la parole, quand nos prières sont dans la foi, quand nos pleurs sont déversées devant le Seigneur, quand nous nous appuyons sur lui, il veut exaucer nos prières. Mais il attend peut-être que simplement nous revenions un petit peu plus de temps là, dans sa présence. Remarquez, elle a prié. Longtemps dans la prière, mais cela ne voulait pas dire longtemps à parler, ni longtemps à prier à haute voix. La preuve, c'est que Élie, le sacrificateur, pense qu'elle est ivre, puisqu'elle remue la bouche, mais aucun son ne sort de sa voix. Longtemps à prier, mais qu'est-ce que la prière? Mon frère, ma sœur, la prière, c'est contempler Dieu. Dans la prière, il y a tellement de choses, il y a l'adoration, il y a la louange. Dans la prière, il peut y avoir des larmes. Mais Dieu est le seul capable de comprendre le langage de ses larmes et de le traduire en mots. Dans la prière, il y a des soupirs. Dans la prière, il y a des élans. Dans la prière, il y a des supplications. Dans la prière, il y a des fois des mots qui nous manquent. Mais dans la prière, il y a la présence de Dieu, celle qui guérit les cœurs. Anne a été exaucée. Anne a reçu cette parole « Va en paix » et j'aimerais simplement conclure en vous donnant la même parole. Ma fille, mon fils, de la part de Dieu bien sûr, va en paix. Va en paix, reçois la guérison de ton âme. Tiens-toi devant le Seigneur. Laisse le Saint-Esprit te toucher au plus profond pour te restaurer. Te donner d'être fécond. De porter la vie, d'enfanter des âmes, de retrouver une bonne santé, d'être consolé. Retrouve ces moments favorables et si intimes. Le Seigneur t'attend, afin que de la poussière, il retire le pauvre, et le fasse asseoir avec les grands. Amen. Nous allons nous recueillir, s'il vous plaît. Notre Dieu, notre Père, Nous te bénissons et nous t'adorons parce que tu es un Dieu bon. Tu es le Dieu qui est rempli d'amour et au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous pouvons percevoir là humainement. Mais nous savons que lorsque nous serons dans la gloire avec toi, nous te verrons face à face et alors nous connaîtrons comme tu nous as connus. Nous connaîtrons parfaitement et nous voulons réaliser, nous les enfants de Dieu, que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, que tu nous as rachetés, que tu nous as ramenés à la vie et que tu nous as appelés tes enfants. C'est pour nous quelque chose de merveilleux et je prie pour ceux qui peut-être ont encore la tête dans la poussière des épreuves, dans les soucis, de leur donner, Seigneur, ce courage ce matin, de venir trouver auprès de toi le secours, de venir trouver auprès de toi le soutien, l'aide et le réconfort pour relever la tête et pour réaliser que tu nous donnes de marcher en vainqueur, triomphant par la foi. Je te demande aussi de bénir nos amis bien-aimés qui sont là dans ce lieu et qui ne t'appartiennent pas, afin qu'aussi ils puissent faire partie des rachetés, être assis avec les grands et goûter à la gloire des enfants de Dieu, à la richesse et au trésor infini de la communion fraternelle et de la communion avec notre Seigneur et notre Maître. Encore merci Seigneur, guéris les cœurs brisés, guéris s'il te plaît Seigneur encore ce matin, ceux qui sont atteints dans leur estime d'eux-mêmes, ceux qui se sentent misérables mais qui n'arrivent pas à relever la tête. Guéris le cœur de ceux qui se sont réfugiés dans l'anorexie, de ceux qui sont peut-être dans la boulimie, de ceux qui sont atteints par un fléau de la société à cause d'une blessure intérieure. Nous savons que tu es le Dieu des guérisons, tu es le divin médecin, tu viens bientôt. Et nous désirons être guéris pour pouvoir être féconds, pour pouvoir enfanter, pour le salut du plus grand nombre. Merci pour l'exemple de Anne. Nous voulons le tenir devant nos yeux et aussi prendre du temps devant toi. Parce que dans ta présence, il y a la guérison, il y a la consolation, il y a la restauration. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen.